C'est parti. Alors, est-ce que vous vous souvenez de la grenouille? Qui se souvient de la grenouille? Qui était là fin avril lors du dernier message que j'avais donné sur une thématique bien particulière? Et aujourd'hui, on va continuer donc sur cette thématique. On avait abordé une première méditation d'une série sur la manière avec laquelle le Satan, le diable, s'y prend pour nous détourner de notre vocation d'enfant de Dieu. Hein, vous savez qu'on a une vocation bien précise qui nous a été donnée pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, qui lui ont confessé leurs péchés, qui l'ont reçu dans leur cœur, qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont confessé ça publiquement lors du baptême. Eh bien, ces personnes ont une vocation particulière, ils ont été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est-à-dire chacun a un plan qui est fixé par Dieu, une mission à accomplir sur cette terre, et c'est cette vocation que nous avons la responsabilité d'accomplir. Et malheureusement pour nous, eh bien, nous avons un adversaire, le diable, qui essaye de nous détourner de cette vocation. Et il va s'y prendre de plusieurs manières. Alors, on avait vu la dernière fois comment le Satan va d'abord attaquer notre attention en la détournant, en essayant de nous distraire par différents moyens. On avait notamment vu l'impact des écrans aujourd'hui, mais il y a plein d'autres moyens de distraction également. Le monde moderne n'en manque pas. Et j'avais pris donc l'image de la grenouille, souvenez-vous, qui se laisse cuire à feu doux, sans réagir finalement. Elle se laisse un petit peu prendre. Et nous avons vu que l'un des enjeux que le Satan va utiliser, c'est le plaisir que ça va nous procurer. On avait vu tout le circuit de la récompense. Hein, je vous renvoie à ce message si vous n'étiez pas là. Et alors mon but, c'est pas de condamner les écrans, c'est pas de vous culpabiliser, c'est pas d'interdire, mais c'est plutôt de nous donner les moyens de comprendre quels sont les enjeux spirituels derrière tout ça, à la lumière de la parole de Dieu, hein, de manière à ce que le Saint-Esprit puisse nous parler, nous aider à prendre les bonnes décisions qui seront les plus appropriées pour chacun. Hein, on peut décider soit de ne rien faire, soit on peut décider de changer de comportement. C'est pour ça que l'apôtre Paul exhorte sans arrêt, hein, notamment dans ce verset d'Éphésiens, de veiller, de racheter le temps, c'est-à-dire utiliser de la meilleure manière possible le temps que nous avons. Comprendre quelle est la volonté du Seigneur, discerner, vraiment comprendre ces enjeux dans lesquels le Satan essaye de nous empêtrer, il essaye de nous endormir, comme un peu cette grenouille qui se laisse cuire dans un bon bain chaud où elle est bien, elle est à l'aise, elle est confortable. Notre but, ce n'est pas d'être forcément confortable, mais c'est d'accomplir notre vocation et notre destinée. Et l'apôtre Paul nous avait bien prévenu, hein, notamment par l'intermédiaire de sa lettre aux Corinthiens, la deuxième aux Corinthiens au chapitre 2 au verset 11, car nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Hein, le but de cette série de messages, c'est que chacun d'entre nous, nous n'ignorions pas quelle est la stratégie de Satan. Après, chacun va prendre les décisions qui s'imposent et je vous avais laissé deux questions en conclusion. La première question, c'est comment est-ce que je peux m'inspirer de l'exemple de Jésus qui, lui, ne s'est pas laissé distraire, hein, on sait qu'il a subi des tentations de la part de Satan, et il ne s'est pas laissé détourner de sa mission, il a pu dire à la fin de sa mission, j'ai accompli l'œuvre que tu m'avais donné à faire en parlant au Père, hein, on lit ça dans Jean 17. Donc ça, c'est la première question. Et puis la deuxième question, c'est qu'est-ce que je vais décider de changer aujourd'hui dans mes habitudes? Hein, vous voyez? Et en fait, le monde se divise en deux types de personnes, hein, selon Carol Dweck, qui est une chercheuse américaine. L'Université de Californie qui a publié un livre remarquable il y a une vingtaine d'années qui s'appelle Mindset. Un mindset, ça veut dire état d'esprit. Et elle dit en gros, le monde se divise en deux personnes. Il y a ceux qui ont un état d'esprit de croissance, c'est-à-dire qui sont capables de se remettre en question, de changer, de prendre des bonnes décisions. Et puis, il y a des gens qui ont un état d'esprit, un fixed mindset, un état d'esprit figé, c'est-à-dire des gens qui ne vont pas changer. Ils vont écouter et puis voilà, ils vont dire OK, c'est intéressant et puis ils ne vont rien changer. Voilà, donc j'espère que chacun d'entre nous, on sera dans le growth mindset, hein, ce mindset de croissance selon Carol Dweck, et que chacun pourra répondre positivement à ces deux questions. Alors aujourd'hui, on va voir que le Satan a plusieurs cordes à son arc, malheureusement, hein. S'il n'y arrive pas, avec la bataille de l'attention et de la distraction, eh bien, il peut s'attaquer aussi de manière beaucoup plus subtile à d'autres niveaux. Hein. Et notamment, je voudrais aborder le niveau de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Hein. C'est extrêmement important. Pourquoi cette stratégie du Satan est plus subtile? Parce qu'elle se joue à l'intérieur de nous-mêmes. Elle se joue dans nos croyances, elle se joue dans notre système de pensée. L'attention, la distraction, hein, vous voyez, c'est l'externe, c'est le visible. Par exemple, quelqu'un peut le voir et peut nous le faire remarquer. Hein, il peut nous aider à revenir à Jésus. Tu passes trop de temps sur ton téléphone, débranche un peu. Vous voyez, donc ça, c'est visible. Mais ce deuxième niveau d'identité est beaucoup plus subtil puisqu'il se joue au dedans de l'homme. Et on sait ce que Jésus a dit sur le dedans de l'homme. Hein, on l'a vu dans l'étude de Marc, notamment au chapitre 7, hein, où Jésus dira, c'est ce qui sort de l'homme qui le souille, ce qui est à l'intérieur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, que viennent les meurtres, les adultères. Donc c'est de l'intérieur, c'est pour ça que l'intérieur est important. Et Satan va essayer de s'attaquer à ça. Donc c'est la nature profonde de l'être humain qui est en cause. Et pour bien comprendre cela, il faut revenir à l'origine. Et donc, avant d'aborder l'impact des actions du Satan sur notre identité, j'aimerais que nous comprenions bien comment nous avons été créés et qu'est-ce que nous sommes devenus à cause de la chute. C'est vraiment très important de comprendre, ce sera mon propos aujourd'hui, et je vais passer un petit peu de temps là-dessus. Rassurez-vous, ça ne va pas durer très longtemps, mais c'est nécessaire vraiment de s'arrêter. Donc, on va faire plusieurs lectures que je vais commenter au fur et à mesure, hein, en me limitant à ce sujet dont j'ai parlé, ce sujet de notre identité en Christ. Je ne vais pas faire une étude exhaustive des textes, ce serait beaucoup trop long, mais on va revenir à l'origine, et puis on va regarder ce que dit la Bible, parce que c'est ça le plus important, hein, c'est pas ce que je vous dis moi, c'est ce que la Bible nous dit, et nous en tirerons trois applications en relation avec notre sujet sur l'identité. Voilà, donc je vous invite à ouvrir vos Bibles. Je n'ai pas affiché de passage à l'écran, j'ai juste affiché des références. Hein. Donc on va regarder les textes, un premier groupe de textes dans le chapitre 1 de la Genèse et on va prendre Genèse chapitre 1, verset 26. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles, comme ça vous regarderez en même temps, vous pourrez annoter vos Bibles pour ceux qui prennent des notes. Donc Genèse chapitre 1, verset 26, on est dans l'histoire de la création. 26 à 28. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous. Remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui rampe sur la terre. Voilà, une première lecture, je lis dans la version La Colombe, c'est une version assez littérale parce que dans ce texte de la création, chaque mot compte en fait. Alors qu'est-ce que nous dit ce texte en résumé? Il nous dit qu'on a été créé à l'image de Dieu, d'accord? On n'a pas été créé Dieu, on n'est pas Dieu, on a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. La deuxième chose que nous dit ce texte, c'est que l'homme a été créé, hein, l'homme et la femme, bien sûr. Quand je vais utiliser le mot homme, hein, il n'y a pas de sexisme chez moi, c'est l'homme dans le sens l'être humain, d'accord? Donc, l'être humain a été créé pour dominer. Et ce mot dominer en hébreu, c'est un terme royal. C'est un terme donc qui manifeste l'autorité. L'être humain, l'homme a autorité dans les airs, il a autorité sur la terre, il a autorité dans la mer. Et au verset 28, il nous est dit de soumettre la terre et de dominer. C'est ça la vocation originale de l'être humain, c'est de soumettre et de dominer dans le sens biblique, divin du terme. C'est-à-dire l'homme qui a été créé par Dieu est soumis à Dieu et donc il y a une chaîne de soumission dont on reparlera. Donc ça, c'est notre vocation originale. On va maintenant prendre un deuxième texte qui se trouve donc au chapitre 2, un petit peu plus loin, et du verset 7 au verset 9. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, ainsi que l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voilà donc un deuxième récit qui nous dit que l'homme reçoit le souffle vital. Littéralement, c'est le Sama, hein, en hébreu, par Dieu qui insuffle. Donc Dieu est à l'origine de la création, Dieu insuffle, l'homme reçoit ce souffle vital et il devient une créature vivante, c'est-à-dire littéralement, il devient un souffle vivant. D'accord ? Donc ça, c'est important à comprendre, ce souffle vivant, parce que c'est la caractéristique, en fait, de l'être humain. À un moment donné, ce souffle vivant s'arrête, d'accord, et l'âme remonte à Dieu. Hein, mais ça, c'est la présence de l'homme vivant ici, sur Terre. Et puis, la Bible aussi nous parle du cadre. Il y a deux arbres. Hein, il y a deux arbres. Il y a un arbre de vie qui permet de rester une créature vivante, puisque c'est l'arbre de vie. D'accord, c'est ça qui garantit le souffle vivant. Et puis l'autre est un arbre qui est réservé à Dieu. Hein, et encore une fois, c'est l'idée de la soumission volontaire et libre. C'est-à-dire, c'est pas une soumission contrainte telle qu'on peut le voir dans le cadre d'une relation d'esclavage ou dans une soumission forcée. C'est une soumission volontaire et libre. C'est-à-dire que l'homme n'est pas Dieu. Il y a une différence entre l'homme et Dieu. Et bah, cette différence, c'est une prérogative. Il y en a un qui a accès à l'arbre de vie et l'autre qui ne l'a pas accès. On le verra tout de suite après, je le détaillerai un peu plus. Voilà, donc, ça c'est pour ces textes-là. On va aller un petit peu plus loin maintenant, au verset 15 et 16. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, et tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc là, il y a la création d'un cadre de vie. D'accord ? C'est le jardin. C'est un cadre qui est sécurisé, qui est protégé, dans lequel Dieu, encore une fois le Créateur qui a autorité sur tout, place l'être humain. Et il va donner à l'être humain une raison d'être. Cette raison d'être, c'est cultiver et garder le jardin. Et ce mot est très intéressant parce que ce mot hébreu signifie à la fois travailler le sol, cultiver, mais ça s'applique également au travail dans le temple. Les Lévites, par exemple, le même mot est utilisé lorsque Dieu parle du travail des Lévites dans le temple. C'est aussi le même mot qui est utilisé lorsqu'il est parlé de servir en qualité d'esclave. On sait que la notion d'esclave dans le plan de Dieu, c'est vraiment la notion de soumission. C'est l'homme pécheur qui a détourné la notion d'esclavage. Et puis, très intéressant ce mot cultiver le jardin, c'est également un mot qui est rendu par rendre un culte à l'Éternel. Par exemple, quand Dieu parle à Moïse dans le livre de l'Exode, il lui dit, vous demanderez à Pharaon qu'il vous laisse partir et vous me rendrez un culte au désert. Eh bien, rendre un culte au désert pour le peuple hébreu, c'est le même mot qui est utilisé que cultiver. Donc, vous voyez, la notion de travail, dans le sens général, dans le plan de Dieu, notion de travail, c'est vraiment rendre un culte. Les gens qui disent, ouais, mais le travail, c'est une malédiction, je ne vais pas travailler, etc. Paul dirait d'ailleurs, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais le travail dans le plan de Dieu, c'est vraiment rendre un culte. On honore Dieu en travaillant. Que vous soyez président d'une société ou que vous balayez l'atelier, vous rendez un culte à Dieu parce que c'est dans le plan de Dieu. Voilà, je ferme la parenthèse. C'est la raison d'être de l'homme. Cultiver le jardin et le garder, c'est la notion de protection. C'est vraiment la notion de prendre soin, la notion de protection. C'est le même mot, garder, qui sera utilisé lorsque Caïn va répondre un petit peu péremptoirement à Dieu. Est-ce que je suis le gardien de mon frère ? Vous voyez ? Donc, c'est la notion de protection et c'est la raison d'être. L'homme, c'est cultiver le jardin et le protéger. Okay ? Et qui dit cadre, dit bien sûr limite. S'il y a un cadre, il y a une limite. Et Dieu dit, vous pouvez faire ce que vous voulez, Vous avez accès à tout, mais il y a juste une chose, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça m'est réservé. Enfin, il ne dit pas ça m'est réservé, mais on comprend que ben, il ne faut pas y toucher parce que c'est la prérogative de Dieu. Vous voyez, certaines personnes disent, oui, mais Dieu, c'est un Dieu castrateur qui nous empêche de faire plein de choses et tout, il met des règles. Vous voyez, Dieu, il donne une liberté, il donne un cadre sécurisé, il y a juste un truc, hein, c'est la limite entre l'homme et Dieu. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Joseph. À un moment donné, Joseph, il est esclave chez Potiphar, et Potiphar remarque sa probité, son intégrité, et il lui donne accès à tout, sauf une chose, sa femme. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Joseph, il avait l'intendance de toute la maison, sauf sa femme, et on verra que Joseph ne va pas céder à la seule chose qui est réservé à celui qui a autorité sur lui, c'est-à-dire Potiphar, le chef des gardes, eh bien, il ne va pas toucher la femme de Potiphar. Alors que Adam, malheureusement, ben, vous voyez, il va transgresser cette prérogative qui marque la limite entre l'homme et Dieu. Dieu est le créateur, l'homme est la créature. Voilà. Alors, un autre texte maintenant, on va aller un peu plus loin, au chapitre 2, versets 19 et 20. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouvera pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors là, c'est intéressant aussi parce que Dieu va former les animaux, hein, il crée les animaux et il délègue à l'homme l'autorité de les nommer. Vous savez que nommer, donner un nom, c'est un acte d'autorité. Hein, tout à l'heure, on a présenté un certain nombre d'enfants dont les parents ont fait preuve d'autorité. Ils ont nommé ces enfants, ils leur ont donné une identité. C'est un acte d'autorité. On parle d'identité. Le nom, c'est vraiment le premier représentant de l'identité. Donc Dieu délègue l'autorité à l'homme de nommer ces animaux, de leur donner cette identité. Verset 20, l'homme donna des noms à tous les animaux. D'accord? Il leur donne une identité. Donc l'homme reçoit de son créateur lui-même une identité, puisqu'on a vu qu'il était créé à sa ressemblance, et il reçoit aussi un souffle vital pour exister, et il reçoit une autorité déléguée. Et d'ailleurs, l'homme va nommer sa femme, il l'appelle Isha, d'accord? Il l'appelle femme, d'accord? Là aussi, c'est un acte d'autorité, et on voit une chaîne d'autorité qui se forme dès le départ, d'accord? Avec Dieu le Créateur, l'homme créature qui a autorité déléguée sur la nomination de sa femme. Alors, les féministes mal intentionnés vont dire, oui, mais l'homme est supérieur à la femme. C'est pas du tout dans le plan de Dieu. Hein, le plan de Dieu, c'est que l'homme et la femme sont égaux mais différents, mais l'homme a autorité. C'est pour ça que Paul dira aux Éphésiens, femmes, soyez soumises à vos maris. Mais il y aura le corollaire, mari, aimez vos femmes. Parce que en tant que ayant autorité, c'est à vous de les aimer, de la même manière que Dieu, qui a autorité sur nous, créatures, nous a aimés en envoyant son Fils Jésus-Christ. Vous voyez que ce texte de la Genèse, finalement, il éclaire tout et il n'y a pas besoin de faire un master de psychologie. Si vous avez compris ces textes de la Genèse, vous avez tout compris sur la psychologie humaine. Un dernier texte au verset 25. D'accord? L'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Donc ici, c'est l'état d'innocence. D'accord? L'être humain, l'homme et la femme, sont nus sans aucune honte, c'est-à-dire ils sont bien dans leur peau, ils sont à l'aise, ils sont dans un cadre, tout a été prévu, Dieu a tout mis en place pour que tout se passe bien, et cet état est l'état éternel, c'est l'état qui devait durer éternellement. Voilà. Donc, si on résume un petit peu ce qu'on a vu, il y a trois éléments qui vont structurer l'identité des premiers êtres humains. Écoutez bien ça. C'est très important parce que c'est ça qui va être perdu par la chute et c'est ça qui va être restauré en Jésus-Christ. Voilà. Il y aura une chute et il y aura une restauration. Il faut bien comprendre tout ça. Donc, trois éléments, d'accord? Qui vont structurer l'identité des premiers humains. Premièrement, premier élément, il y a une communion étroite avec Dieu. Hein. Il y a une notion d'appartenance à un système qui est parfaitement équilibré où chacun est vraiment à sa place. Il y a une grande intimité au sens biblique du terme, intimité entre l'homme et la femme, intimité entre Dieu et l'homme, et la relation sexuelle d'ailleurs est l'illustration physique de cette intimité proche, spirituelle. Quand il est dit dans la Bible, l'homme connut sa femme, eh bien, ça illustre cette intimité proche, cette proximité. Donc, premier élément, un état de communion, un état d'appartenance. Deuxième élément qu'il faut noter, c'est qu'il y a une approbation de Dieu sur ce système que lui a mis en place, et il y a une acceptation parfaite d'Adam et Ève, de leur personne, de qui ils sont, de leur place, de leur état d'innocence, et de leur qualité de créature à l'image de Dieu. Ils sont bien tels qu'ils sont, il n'y a aucune honte à avoir. Souvenez-vous que c'est l'état initial qui a été perdu et restauré en Jésus-Christ. Ça veut dire que chaque personne ici présente qui écoute, qui est en Jésus-Christ, est porteur de ça et peut aspirer à ça. On verra que entre l'aspiration et l'approbation, il y a peut-être une différence. Et ce sera l'objet aussi des deux prochains messages que j'aborderai. Troisième élément, l'homme et la femme sont investis d'une autorité de type royal. Le terme qui est utilisé, c'est vraiment une autorité destinée à des rois. C'est une autorité déléguée par Dieu pour dominer la création, pour nommer les animaux, on l'a déjà vu. Donc finalement, en résumé, l'homme est le prince de la terre, sous l'autorité de Dieu. D'accord ? Donc ça, c'est l'état initial, ça serait super, tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, si il n'y avait pas Genèse chapitre 3. Et malheureusement, il faut l'aborder pour bien comprendre aussi comment les choses ont évolué. Alors on va prendre Genèse chapitre 3, encore une fois, on va lire là, d'une seule traite, les 13 premiers versets, et je ferai quelques commentaires très rapides, en synthèse, toujours pour notre sujet. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme dit au serpent, « Nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus, se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et la femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis donc caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ? » La femme répondit « Le serpent m'a induite en erreur et j'en ai mangé. » Voilà, on va arrêter là. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte. Je vais rester sur mon sujet. Dieu a-t-il réellement dit ? Ça, c'est la stratégie numéro un du Satan. C'est l'instillation du doute par rapport à la vérité. Satan va instiller en permanence dans toute notre vie jusqu'à notre dernier souffle. Il va instiller le doute par rapport à la vérité biblique. C'est pour ça que l'apôtre Paul et bien d'autres parleront de la vérité de l'évangile, de la vérité de Christ qui est en lui. D'accord ? Paul parlait d'autorité à partir de Jésus-Christ qui vivait en lui, il annonçait la vérité. Et Jésus dira à Pilate, lors de son procès, « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. » Donc, il faut être persuadé que la Bible est infaillible, qu'elle est toute la vérité, qu'elle est la parole de Dieu. La vérité, c'est ça. Tout le reste est incertain. Même si ça semble être la vérité, c'est incertain. Même ce que je vous dis ce matin, Ce que je vous dis ce matin, je peux faire des erreurs, je suis faillible, mais la vérité, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous invite à ouvrir vos Bibles et à lire ces textes et à les relire, parce que c'est ça, la vérité de la parole de Dieu. Et puis, quand le doute est installé, hein, c'est comme un coin dans une bûche. Si quelqu'un a déjà fendu du bois, vous savez qu'il suffit d'un petit coin. Une fois qu'on a le coin, on met un autre coin et on fend la bûche. Et quand le doute est installé, eh bien, c'est les demi-vérités qui vont arriver. Alors, on y va. Vous ne mourrez pas. Hein. Donc ça, c'est un fiéfé mensonge. Parce que Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Si Dieu a dit, tu mourras, eh bien, c'est tu mourras. Alors, évidemment, Adam et Ève ne sont pas morts. Adam a vécu 930 ans, mais il est mort spirituellement. D'accord ? Il a été séparé de Dieu. On le verra tout à l'heure. Et puis, qu'est-ce qui se passe ? Vos yeux s'ouvriront, vous serez comme Elohim. Alors, dans les versions comme des dieux, je préfère dire comme Elohim, parce que, en fait, Louis II a traduit Elohim par des dieux, puisque Elohim est un nom pluriel, Dieu trois en un, mais Dieu est un. Voilà, vous serez comme Dieu. Hein. L'idée, c'est pas être comme des dieux, comme un dieu grec ou un dieu romain. Non, c'est le but, c'était vous serez comme Dieu, vous serez à la place de Dieu, parce que Satan, c'est ce qu'il a voulu faire. Il a voulu se mettre à la place de Dieu, donc il a tenté l'être humain pour lui dire, bah, si vous mangez de cet arbre, vous serez comme Dieu. D'accord ? Donc, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Hein ? L'enjeu, c'est ça, connaître le bien et le mal. Alors certes, leurs yeux se sont ouverts, c'est vrai, mais ils se sont ouverts sur quoi ? Sur quelque chose qu'ils n'avaient pas à voir. Alors, ils ne connaîtront pas parfaitement le bien et le mal. Ils auront juste accès au bien et au mal. Ils auront une certaine connaissance du bien et du mal, mais ils seront incapables de gérer le bien et le mal, puisqu'ils ne sont pas Dieu. Il n'y a que Dieu qui gère parfaitement le bien et le mal. Et donc, en faisant ça, ils ont précipité l'humanité vers la déchéance. Et à partir de là, toute l'humanité, par nature, issue de la race d'Adam, eh bien, est devenu comme ceci, hein, connaissant le bien et le mal, incapable de le gérer. Hein. Et dès la naissance, l'être humain est sous l'emprise de la nature charnelle d'Adam. Hein, vous voyez, même des tout petits bébés, hein, on a une petite fille là, qui a une quinzaine de jours là, maintenant, mais on a présenté 5 petits enfants, et bien dès leur naissance, ces 5 petits enfants sont sous l'emprise de la nature charnelle d'Adam et devront chacun individuellement passer par une repentance, une restauration de leur relation avec Dieu qui a été brisée par la chute d'Adam. Voilà, c'est pour ça qu'il faut prier pour eux, il faut prier pour nos enfants, nos petits-enfants. Et donc toute l'humanité aura beaucoup de mal à faire le bien et elle sera surtout douée pour faire le mal qu'elle ne veut pas. C'est ce que va exprimer l'apôtre Paul en Romains 7. Il posera ce dilemme absolu en disant « Je voudrais faire le bien, mais je n'y arrive pas, il y a quelque chose en moi qui me pousse à faire le mal. » Et il va s'écrier « Malheureux que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et il terminera, et ça c'est la bonne nouvelle, « Grâce soit rendue à Jésus-Christ, hein, par lequel nous avons la victoire. » Donc la restauration de tout ça passe par Jésus-Christ, il y a une solution, Dieu a pourvu. Donc leurs yeux se sont évidemment ouverts, mais pour leur malheur. Et ils n'ont eu, comme on dit, ils n'ont eu que leurs yeux pour pleurer. Et non, ils ne seront pas comme Elohim, car ce sont des créatures. Donc, vous voyez, Adam et Ève étaient dans le jardin. Ils avaient plein de bons choix possibles à faire. Ils avaient le choix de nommer les animaux, c'est ce qu'ils ont fait. Ils avaient le choix de cultiver, d'entretenir le jardin. Mais ils ont fait le seul mauvais choix possible, celui de désobéir à Dieu en écoutant la voix du serpent. C'est vraiment triste de lire ça, et malheureusement, ben on est sous cette malédiction, et il faut l'accepter. L'humanité entière est dans cette situation, mais heureusement, Jésus-Christ, hein, que nous louons en permanence, que nous célébrons Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, a pourvu à cette malédiction, et en confessant nos péchés, à Jésus-Christ, vous voyez, si au lieu de se justifier, Adam avait confessé ses péchés en disant « J'ai péché, pardonne-moi », Dieu aurait pardonné en Jésus-Christ. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences maintenant de la chute ? Ça aussi, c'est important à comprendre. Il y a 3 conséquences de la chute, parce que ces conséquences, on vit sous ces trois conséquences aujourd'hui. Première des conséquences, il y a rupture de la relation parfaite avec Dieu, la relation verticale. Hein. Rupture de cette intimité, c'est la mort spirituelle qui impliquera la mort physique, parce que Dieu va chasser hein, Adam et Ève du jardin d'Éden, va les chasser de l'accès à l'arbre de vie, parce qu'ils ne pouvaient pas, en étant séparés de Dieu, ne pouvaient pas continuer à vivre éternellement. Hein. Il va même limiter en Genèse 6, hein, du temps de Noé, il est dit à nouveau, son esprit ne restera pas toujours dans l'homme, il va limiter la durée de vie des humains à 120 ans. Et donc, la conséquence de tout ça, c'est que l'homme va perdre, à cause de cette rupture, la juste perception des choses. Dieu avait mis dans le cœur de l'homme une juste perception des choses qui lui était suffisante pour accomplir sa vocation dans le jardin d'Éden. Et il va perdre trois choses. Il va perdre le sens de la réalité. Hein. Paul parlera de pensée obscurcie. Hein. Ceux qui ne connaissent pas Dieu ont une pensée obscurcie, sont étrangers à la vie de Dieu. Hein. Relisez Éphésiens chapitre 2, Éphésiens chapitre 5. Donc, ils perdent la juste notion de la réalité. Quand je dis ils perdent, c'est nous, c'est moi. Hein. Parfois, je n'ai pas du tout la notion de la réalité. Hein. J'ai la pensée qui est obscurcie. Hein, Dieu dira par la bouche d'Ésaïe, vos pensées ne sont pas mes pensées. Dieu a un autre niveau de pensée parce qu'il est Dieu et on a perdu cette perception de la réalité. Deuxième chose, on a perdu la véritable notion de l'image de Dieu. On a une vision erronée de la personne de Dieu. Hein, pour ceux qui ont étudié un peu la mythologie grecque, hein, dans la mythologie grecque, ben, c'est pas, il n'y a rien de nouveau, hein. Toute l'humanité est issue de Noé, il y a eu une transmission orale et cette transmission a été déformée. Mais qu'est-ce qu'on lit dans la mythologie grecque? Ce sont des dieux jaloux qui se font la guerre, qui se jalousent, qui s'entretuent. Hein. On a une vision erronée de ce qu'est Dieu parce que Dieu devient à l'image de l'homme. En fait, l'homme a été créé à l'image de Dieu, mais l'homme a déformé, il a fait ce qu'on appelle un déplacement anthropocentrique, c'est-à-dire que centré sur lui-même, il voit Dieu à son image. Vous comprenez? Anthropocentrique, c'est ça vient de moi, c'est ma vision. Par exemple, quand Michel-Ange peint Dieu sous la forme d'un vieillard, ben voilà, peut-être qu'il se sentait vieillir à l'époque et il se disait, ben Dieu est comme moi. Donc il dessine un vieillard alors que Dieu, il ressemble pas à un vieillard, hein, sur les cieux, voguant sur un nuage, etc. Vous voyez, ça, c'est des visions anthropocentriques. Donc on a une pensée déformée de l'image de Dieu, hein, qui ne peut être restaurée qu'en lisant la parole de Dieu, en comprenant qui est Dieu dans la Bible par imprégnation, par capillarité. Et puis, troisième déformation, ben, c'est l'image de soi. Hein. L'homme perd la juste perception de l'image qu'il a de lui-même en tant que créature. Ben, ça, c'est tous les manques de confiance en soi, etc. On se voit nul, blablabla. Voilà. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais tout ça vient de la chute, rupture de la relation verticale. Deuxième conséquence de la chute, rupture de la relation horizontale. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a un isolement. L'être humain s'isole, d'accord? Il commence à accuser la femme. Oh, c'est la femme. Puis la femme, oh, c'est le serpent. Vous voyez, on cherche des boucs émissaires, on commence à se justifier. D'accord? Donc on se retrouve face à soi-même, on s'isole, on perd la relation, on perd la communion. Et on cherche à se justifier au lieu de se repentir. C'est un comportement qui existe encore aujourd'hui, hein, pleinement. Et puis, c'est le début des conflits. Conflits avec l'autre, conflits avec soi-même, etc. Troisième chose, il y a une perte d'identité spirituelle parce qu'on n'a plus d'intimité avec Dieu. Dieu qui est la source de l'intimité, eh bien, on perd ça. Hein. C'est un peu pour vous donner une image, c'est comme si on était un peu un jouet qui se branche électriquement, qui fonctionne électriquement. Tant que la prise est branchée au mur, eh bien, Dieu insuffle le souffle de vie, il insuffle l'énergie, il insuffle tout ce qui vient de lui, et on peut continuer à vivre, et on est relié par la prise avec Dieu. Si on débranche la prise, ce qu'a fait Adam, et Ève dans le jardin d'Éden, eh ben, on n'est plus alimenté. Au bout d'un moment, ben, l'objet électrique ne marche plus, hein, tout dysfonctionne et ça s'arrête et il y a une perte de la juste perception des choses. Voilà. Donc, maintenant, pour conclure, je voudrais aborder trois conséquences émotionnelles de ça, de la chute, et trois besoins émergents sur lesquels le Satan va s'appuyer pour nous faire chuter. Hein, on verra ça, comment Satan s'y prend la prochaine fois, mais je continue mes explications, je pose les bases aujourd'hui pour que derrière, on puisse bien comprendre. Donc, trois conséquences émotionnelles de la chute. Première conséquence, c'est l'arrivée de la peur. Hein, il se cache, d'accord? On a peur de quoi? Ben, on a peur de plein de choses. On a peur d'échouer, on a peur d'être démasqué, on a peur de ne pas être accepté tel qu'on est, on a peur d'être rejeté. Hein, c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Hein, ils sont chassés du jardin. On a peur d'être abandonné. Donc, il y a plein de peurs. Le monde est sous la domination de la peur. Tout ça vient de la chute initiale. C'est pour ça que dans la Bible, Jésus sans arrêt dira, ne craignez pas, ne craignez pas, ne craignez pas. Parce que Dieu est là. Si je sais que Dieu est là, ben, j'ai aucune crainte. Hein, si une armée se campait contre moi, disait David dans un psaume, je n'aurais aucune crainte. D'accord? Je crois que c'est le psaume 27, si j'ai bonne mémoire. Bon. OK. Deuxième conséquence, c'est la honte et la culpabilité. Hein, ils se cousent des feuilles de figuier. Ils ont honte. Ils découvrent qu'ils sont nus. Ils essayent de cacher leur être intérieur, de peur que les autres découvrent leur vraie nature. Hein, c'est ça qu'on fait finalement. On se cache, on se fabrique des images, on se fabrique des masques pour pas que les autres voient notre vraie nature. On porte un beau sourire évangélique le dimanche matin, mais notre être intérieur est masqué parce que parfois on est dans la honte et dans la culpabilité. Et puis la troisième conséquence émotionnelle, c'est l'arrivée de l'esprit de querelle, c'est l'esprit de comparaison. Hein, on le verra avec le triste épisode de Caïn et d'Abel qui suivra. Hein, on se compare, ton offrande est meilleure que la mienne, mais pourquoi? Et puis il y a la colère, il y a la dépression. Dieu dira d'ailleurs à Caïn, est-ce que tu fais bien de t'irriter, de te mettre en colère? D'accord? Donc on voit ces sentiments qui arrivent après la chute. Et aujourd'hui, c'est des sentiments encore très très forts qui habitent certaines personnes, voilà, qui n'ont pas compris que même si elles appartiennent à Jésus-Christ, qu'à un moment donné, Jésus-Christ a crucifié tout ça à la croix. On verra un petit peu en détaillant la prochaine fois comment est-ce qu'on peut aborder ces choses-là. Donc, en Éden, dans le jardin d'Éden, si on veut résumer, l'homme et la femme, ils jouissaient de privilèges, d'accord? Ces privilèges ont été gratuitement donnés par Dieu et à cause de la chute, ces privilèges deviennent des besoins à combler. D'accord? Maintenant qu'ils ont été chassés du jardin d'Éden, les privilèges dont ils jouissaient deviennent des besoins à combler. Ils étaient appelés à l'infini et la vie éternelle dans le jardin d'Éden et ils ont été précipités dans la finitude. D'accord? Cette finitude qui allait s'achever par la mort physique. Après la mort spirituelle qui est la séparation d'avec Dieu. Alors, quels sont ces trois besoins? Là aussi, je vous demande de faire attention. C'est presque fini là maintenant, mais voilà, parce que c'est vraiment la base pour moi d'une vie chrétienne équilibrée et épanouie. De comprendre ses besoins et de voir de quelle manière je vais répondre à ses besoins. Premier des besoins hein, qui émerge après la chute, c'est un besoin d'appartenance, de communion, de communauté. Parce que, souvenez-vous, Adam et Ève ont perdu leur appartenance à un système organisé et sécurisé qui était le jardin d'Éden. Et donc, cette perte de l'appartenance a été remplacée par le rejet. Et c'est pour ça que chez l'homme, aujourd'hui, la peur du rejet est très forte. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de solitude dans notre monde, même dans la vie chrétienne, même dans l'Église. Il y a beaucoup de solitude parce qu'il y a des manques d'intimité et des besoins de communion. Et c'est pour ça que l'Église répond à ces besoins par la communion fraternelle. C'est la notion de koinonia. Vous connaissez ce terme qui désigne la communion fraternelle, l'un des quatre piliers de la première communauté chrétienne naissante. Il persévérait, acte 4, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Donc il y a besoin de cette communion, de cette communauté. De cette intimité, il y a besoin de resserrer des liens. Deuxième besoin qui émerge, qui était présent en Éden, il n'y avait pas besoin de s'en occuper, mais là, il faut s'en occuper, c'est la notion de valeur personnelle. Cette innocence où finalement Adam et Ève se trouvaient bien, ils étaient équilibrés, tels qu'ils étaient, cette innocence a été remplacée par la honte et la culpabilité. Hein? Et aujourd'hui, c'est la notion de mauvaise image de soi. Hein? Vous savez, les psys, souvent, vont combler ça en nous flattant, mais si, t'es très bien, etc. Vous voyez, on donne une réponse incorrecte à des problèmes réels, alors que la réponse, c'est la repentance, c'est venir à Jésus-Christ. Et la valeur personnelle, c'est dans notre identité. Qui nous sommes en Christ, on a une valeur énorme. La preuve, c'est que Christ a versé son sang pour nous. Et c'est l'apôtre Pierre qui dira que vous n'avez pas été racheté ni par de l'or, ni par des pierres précieuses, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Vous vous rendez compte la valeur de ce sang pour nous racheter, pour nous ramener à cet état initial de personne innocente et bien aux yeux de Dieu. Donc il y a un besoin de rétablissement de la valeur personnelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'être humain va sans cesse chercher la performance. On cherche la performance pour montrer qu'on a de la valeur. Alors on va s'inscrire aux Jeux Olympiques, on va s'entraîner 10 heures par jour pour avoir une médaille, parce que c'est ça qui va me donner de la valeur. Enfin, c'est pas ce que je dis, hein. C'est ce que les gens disent. On encourage la performance. Et ça, c'est toutes les notions d'identité dans autre chose qu'en Jésus-Christ. Hein. Je ne vais pas vous les énumérer, je vous renvoie au week-end d'église avec Gérard Roaro. Hein. Je suis ce que je fais, je suis ce que je possède, je suis ce que les autres disent de moi, etc. etc. Revoyez ça, parce que c'est la course à la performance pour restaurer ma valeur personnelle, alors que la Bible nous dit que notre valeur est dans l'identité et dans l'appartenance à Jésus-Christ. Voilà, je n'insiste pas là-dessus. Si vous avez des questions, vous pourrez me les poser soit par WhatsApp, soit par SMS pour ceux qui ont mon numéro, soit vous transmettez aux anciens. Mais voilà, c'est des notions importantes à comprendre. Troisième besoin qui émerge après la chute, c'est le besoin d'exercer une autorité à laquelle l'homme, je vous le rappelle, a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé pour exercer une autorité. Et donc cette autorité, par la chute, a été remplacée par de la faiblesse et de l'impuissance. Hein, c'est une autre peur encore qui s'ajoute, c'est la peur d'être faible et impuissant, c'est la peur de ne pas être à la hauteur de ce que je vais me demander. C'est pour ça que dans une entreprise ou dans une communauté quelconque, on va essayer de cacher nos échecs, hein, de peur qu'on soit, que le fait de ne pas être à la hauteur, ne pas faire ce qu'on nous demande, ne pas y arriver, eh ben, cette peur est tellement forte que je vais cacher tout ça. Et ça perturbe les relations, bien entendu. Voilà, donc en se soumettant à la suggestion du serpent, eh bien, ils ont échangé cette autorité déléguée de Dieu contre une connaissance du bien et du mal dont ils n'avaient pas besoin, d'accord, puisqu'ils étaient soumis à l'autorité de Dieu. Et la conséquence, c'est que l'homme maintenant a besoin d'exercer cette autorité, parce qu'il a été créé pour ça, il a été programmé pour ça. Il a besoin de force et de maîtrise de soi, il a besoin de se dominer, c'est pour ça qu'il essaye de dominer les autres, c'est pour ça que les gens achètent des gros 4x4, ils recherchent. J'ai rien contre les 4x4, hein, mais parfois on achète ça pour flatter notre identité, rechercher du pouvoir, rechercher de la domination, hein, alors qu'on ne maîtrise pas sa vie finalement. L'âme humaine n'a pas été conçue pour ça, elle a été conçue pour servir Dieu, elle a été conçue pour être soumise à son Créateur. Et c'est pour ça que nous courons après cette autorité que nous avons déléguée avec des fortunes diverses, hein, des crises d'autoritarisme. Certains milieux évangéliques, par exemple, incitent à prendre autorité, un peu de force, comme une injonction. Et c'est mal comprendre que finalement, la véritable autorité, c'est se soumettre à celui qui est la source de toute autorité. Voilà donc trois besoins, et on verra qu'il y a deux manières de combler ces besoins. Il y a la manière du monde, d'accord ? Et la manière du monde, c'est alors voilà, c'est le. Ouais. La manière du monde pour combler ses besoins, c'est le péché. Le péché, c'est quoi finalement? C'est la mauvaise manière de combler tous ses besoins qui sont légitimes, mais combler ses besoins par soi-même en dehors de Dieu. Et la manière de Dieu de combler ses besoins, c'est par l'obéissance et par la soumission. Voilà, mes amis, donc les bases étant posées. C'est finalement comment faire pour sortir de ça. C'est la repentance et la confession des péchés qui va nous permettre de restaurer l'état original. On ne peut pas avoir une identité juste et équilibrée si on reste dans le péché, si on reste en dehors de Jésus-Christ. C'est pour ça que si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ dans votre vie, je vous engage, si c'est aujourd'hui, si ce message vous parle, si vous interpelle, je vous engage à restaurer cet état original, à confesser vos péchés, à revenir à Dieu. Nasser l'a dit tout à l'heure pendant la scène, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par la grâce qui est en Jésus-Christ. Mais néanmoins, si cette relation avec le Dieu créateur est restaurée par la repentance et la confession des péchés, eh bien cela nous demande aussi un acte d'appropriation personnelle de notre part de cette identité. Et c'est là parfois que le bât blesse dans le milieu chrétien. Et on verra d'ailleurs la prochaine fois que Satan va tout faire pour empêcher cette appropriation de notre identité en Jésus-Christ qui nous est acquise. Donc je vous donne rendez-vous à la rentrée, hein, le 8 septembre, on continuera cette méditation, on verra comment Satan s'y prend et on verra comment on peut pratiquement restaurer cette identité perdue, mais qui nous a été donnée gratuitement en Jésus-Christ. Voilà, je vous souhaite à tous un bon été et de bonnes vacances. Et à la rentrée prochaine. Merci.